Hector Malot, Ghislaine, quatrième partie, chapitre 1. Le jour où Ghislaine reçut cette lettre, elle avait passé une partie de la matinée au pavillon du garde, car depuis l'entretien qui avait définitivement fixé le sort de Claude, elle montrait, beaucoup plus librement qu'avant, sa tendresse pour sa fille. N'avait-elle pas l'autorisation de son mari? Et à l'avance, n'était-elle pas certaine que, quoi qu'elle fît, il ne s'en inquiéterait pas? Maintenant, elle ne prenait plus des prétextes pour l'aller voir, et franchement, elle disait « Je vais près de Claude ». Arrivée chez le garde, elle ne se cachait pas non plus pour laisser paraître son affection, et franchement aussi, elle embrassait sa fille. Le plus souvent, elle l'emmenait dans le parc, et quand elles étaient assises, en tête à tête, à l'abri de la curiosité des enfants d'Agomère ou des passants, elle la faisait causer en l'interrogeant doucement. Ce n'était point sur de graves sujets qu'elle la mettait, mais simplement sur ceux où, pouvant forcer par d'adroites questions sa réserve toujours un peu craintive, elle l'amenait à se livrer. N'était-ce pas cela qui touchait son cœur de mère? Savoir ce qu'était cet enfant qu'elle n'avait pas toujours près d'elle et qu'une observation constante, dans les choses importantes comme dans les riens, dans la joie comme dans le chagrin, la bonne humeur ou la colère, ne pouvait pas lui faire connaître à fond avec sa vraie nature. Et c'était cette vraie nature qui l'intéressait, qui l'inquiétait. Par où tenait-elle de son père? Par où s'en éloignait-elle? Sous cette main douce et caressante, le cœur de Claude s'ouvrait. Avec un abandon plein de confiance, elle bavardait, disant tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'elle avait dans l'esprit. D'un mot, Ghislaine la redressait, la soutenait, et par des histoires qu'elle arrangeait, par des exemples, la conduisait où elle voulait qu'elle allât. Quelquefois aussi, il était question des leçons, c'est-à-dire que Claude en parlait, car Ghislaine, qui connaissait la susceptibilité de Lady Capados, veillait à ne pas donner à son ancienne gouvernante des sujets d'inquiétude. « Ah, si Lady Capados m'expliquait les choses comme vous !» disait Claude. « Lady Capados est une maîtresse. Et vous ?»« Moi, cher enfant, moi, je n'en suis pas une. » Et Ghislaine était obligée de s'arrêter, car le mot qui lui montait du cœur, elle ne pourrait jamais le prononcer, et il ne fallait pas que, par une imprudence, par un entraînement, elle permît à Claude de le prononcer elle-même, sinon en ce moment, au moins plus tard. On ne parlait pas toujours, il y avait aussi des moments de silence et de recueillement où elle restait les yeux dans les yeux. Alors Ghislaine attirait Claude contre elle, et de son bras, elle l'enveloppait doucement. C'était à Chambray que Nicétas avait adressé sa lettre, et il avait calculé qu'à l'heure où Ghislaine la recevrait, M. Dunière devait être à la chambre, ce qui serait parfait, car elle serait troublée, et pour le succès de sa combinaison, il ne fallait pas qu'elle trahît une trop vive émotion devant son mari. Mais ce calcul se trouva faux. Au lieu d'aller à la chambre, le comte était resté au château pour préparer un discours important qu'il devait prononcer le lendemain, et, après le déjeuner, il s'était installé dans la bibliothèque avec sa femme près de lui, comme toujours lorsqu'il travaillait. N'était-elle pas son inspiration et sa conscience? Il trouvait plus vite lorsqu'elle était là. Et il n'était sûr d'un effet ou d'un argument que lorsqu'après discussion, elle l'avait approuvé. Le domestique qui recevait le courrier en faisait le tri, mettant dans une corbeille ce qui était pour le comte et sur un plateau les lettres à l'adresse de la comtesse. Quand il entra dans la bibliothèque, le comte, qui était devant une grande table couverte de volumes de journal officiel, n'interrompit point son travail. Mais Ghislaine, assise à un petit bureau dans l'embrasure d'une fenêtre, posa le livre qu'elle lisait et commença à ouvrir les lettres. Bien qu'elle sût à l'avance à peu près ce qu'elles contenaient, et justement même parce qu'elle savait qu'elles étaient des demandes de secours, il fallait qu'elle les lût tout de suite pour y répondre sans retard ou pour faire faire les recherches auxquelles elles donnaient lieu. Elles étaient ce jour-là nombreuses et déjà il en avait vu plusieurs lorsqu'elle ouvrit celle de Nicétas. « Je rentre en France et trouve ma fille qui est aussi la vôtre. » Elle n'alla pas plus loin. Un voile avait passé devant ses yeux, son cœur s'était arrêté. Heureusement, la lettre était posée sur le bureau, sans quoi elle serait tombée, où elle aurait été secouée de telle sorte dans sa main tremblante que l'attention du comte eût été provoquée. « Lui !» Depuis 11 ans, elle l'attendait. Mais les angoisses des premières années, toujours vaines, avaient fini par lui donner une sorte de confiance. Si elle devait l'attendre, n'était-il pas permis d'espérer qu'il ne reviendrait point ? 12 années s'étaient écoulées sans qu'il reparût. N'y avait-il pas des chances pour que d'autres s'écoulassent encore ? Quel droit avait-il sur elle, d'ailleurs ? Et sur Claude, dont il ne connaissait même pas l'existence ? Elle fit un effort pour ne pas s'abandonner, et, la tête basse, à la dérobée, rapidement, elle jeta un coup d'œil du côté de son mari. Absorbé dans son travail, il n'avait rien remarqué, et, penché sur sa table, il continuait à prendre des notes. Sa plume, en écrivant, craquait avec un bruit régulier. Elle était comme paralysée de corps et d'esprit. Quelle contenance tenir ? Que faire ? Elle ne savait, et même elle était incapable de se poser une question raisonnable. La lettre restait ouverte sur le bureau, sans qu'elle osât même la faire disparaître, et cependant elle sentait vaguement que son mari pouvait se lever, venir à elle comme il le faisait à chaque instant, et machinalement, sans intention, laisser tomber son regard sur cette feuille de papier où le mot « votre fille » flamboyait, croyait-elle, se détachant en caractère d'affiche. Dans leur étroite intimité, ils n'avaient pas de secret l'un pour l'autre, et si monsieur ouvrait ses lettres, si madame ouvrait les siennes, en réalité, elles étaient les unes et les autres pour monsieur aussi bien que pour madame aussi bien que pour monsieur. Il semblait, autant qu'elle pouvait avoir une idée, que la première chose à faire était de cacher cette lettre. Mais comment ? Dans les circonstances ordinaires, rien n'eût été plus simple que d'ouvrir un tiroir du bureau et de la mettre dedans. Elle n'osait pas. La glisser dans sa poche, elle n'osait pas non plus, s'imaginant que le froissement du papier allait crier sa honte. Et la terrible feuille était devant ses yeux, hypnotisante. Comme elle allait se remettre à lire, elle sentit que son mari se tournait vers elle. Alors elle le regarda. Il ne s'était point levé et ne paraissait pas disposé à quitter son travail. « Te rappelles-tu la date de mon discours à propos de l'ordre du jour Bunou-Bunou ?»« L'ordre du jour Bunou-Bunou. » Dans toute autre circonstance, elle eût donné la date du jour, de mois, d'année. Mais, en ce moment, comment réfléchir, chercher, se rappeler ? Et cependant, elle devait répondre sans que sa voix trahît son bouleversement. « À peu près 3 ans, il me semble. »« 3 ans, dit plutôt 7 ans. Comment ta mémoire si ferme peut-elle se tromper de tant d'années ?»« Sans doute, je fais une confusion. »« Ne cherche pas, je vais vérifier. » Quittant sa table, il passa dans une pièce voisine qui servait d'annexe à la bibliothèque. Alors elle se jeta sur la lettre et d'un coup d'œil la lut, puis vivement, elle la mit dans sa poche. Il n'était que temps, le comte rentré, il vint à elle. « Je te fais mes excuses, dit-il, tu étais plus près que moi de la vérité, il y a 4 ans. » Comme elle avait ordinairement le triomphe modeste, il ne s'étonna pas qu'elle ne répondît point, et tranquillement, il retourna à son travail. Il fallait qu'elle prît un parti, et tout de suite, puisque c'était pour le lendemain même qu'il fixait son rendez-vous. S'attendant depuis son mariage à le voir surgir d'un moment à l'autre, elle avait bien des fois examiné la question de sa défense, et elle s'était toujours dit qu'alors elle devrait avoir recours à cette arme dont son oncle lui avait parlé avant de mourir. Quelle était cette arme ? Elle ne le savait pas au juste. Une lettre, sans doute, qui lui fermerait la bouche s'il voulait parler. Mais, quelle qu'elle fût, elle devait être efficace, puisque son oncle lui avait recommandé d'en faire usage. Il fallait donc qu'avant tout, elle la réclamât au notaire chez qui elle était déposée, et que tout de suite, elle allât à Paris. Bien qu'il fût scrupuleusement observé qu'elle restât auprès de son mari quand il travaillait, elle n'hésita pas. N'était-ce pas son honneur et son repos, le bonheur de l'homme qu'elle aimait, la vie même de sa fille qui se trouvait en jeu ? « Si tu ne t'y opposes pas, dit-elle d'une voix qu'elle s'efforçait d'affermir, je partirai pour Paris. » Il fut stupéfait. « Comme ça, tout de suite ?» Il fallait qu'elle donnât une raison, bien qu'il ne lui en demandât pas, et que, pour la première fois, elle ne fût pas franche. « Parmi ces lettres, il s'en trouve une qui exige une solution immédiate. » « Tu seras longtemps ?»« Strictement ce qu'il faut pour aller et revenir. » Il sonna et commanda d'atteler. Certainement, tu me retrouveras au travail, dit-il, car ça ne va pas aller, et je suis sûr que demain à la chambre, tu sentiras toi-même que ton aide m'a manqué. Il voulut la mettre lui-même en voiture, et, la portière fermée, il recommanda au cocher de marcher rondement. À 3 heures, les chevaux, blancs d'écume, s'arrêtaient devant les panonceaux de M. Lejeunet de la Crochardière, et Ghislaine entrait dans l'étude. C'était la première fois qu'elle venait chez son notaire, car, quoiqu'elle eût dû mettre bien souvent sa signature au bas d'actes notariés, on était toujours venu les faire signer à l'hôtel de la rue Monsieur. Quand elle se trouva dans une grande pièce, où sur des tables à pupitres en bois noirci travaillaient une dizaine de clercs, elle se trouva intimidée sous le feu de tous ces yeux qui s'étaient levés sur elle. Mais le second clerc, qui la connaissait et qui dirigeait cette étude, accourut avec des démonstrations de la plus respectueuse politesse. « Madame la comtesse désire voir Monsieur Lejeunet, sans doute. Je vais m'informer s'il peut recevoir. » Le notaire lui-même apporta la réponse en venant au-devant de sa cliente qu'il fit entrer dans son cabinet. La demande que Ghislaine avait à présenter était bien simple, cependant ce fut avec un extrême embarras qu'elle s'expliqua. Heureusement, depuis longtemps, le vieux notaire était habitué à ne pas laisser deviner qu'il remarquait la gêne d'un client, encore moins d'une cliente. Aussitôt qu'il put comprendre ce dont il s'agissait, il alla à une grande caisse qu'il ouvrit, et, en tirant la pièce qui lui avait été confiée par M. de Chambray, il la remit à Ghislaine. Elle eût voulu sortir au plus vite pour déchirer l'enveloppe et lire cette pièce, mais le notaire ne lui en laissait pas la liberté. Il parlait de Claude, et il fallait bien qu'elle l'écoutât. « Par Monsieur le comte d'Unières, j'ai appris tout l'intérêt que vous inspire cette chère enfant et toute la tendresse que vous lui témoignez. Dans son isolement, c'est un grand bonheur pour elle. »« Une mère, me disait Monsieur le comte, n'aurait pas plus d'affectueuse sollicitude. » Et il continua assez longtemps ainsi, mais sans insister cependant et en gardant la mesure qu'il savait mettre en tout. Enfin, elle put se lever et, conduite par le notaire, regagner sa voiture.